Bienvenue dans Au cœur du chaos, un espace pour réfléchir, agir et avancer ensemble.
Bonjour et bienvenue dans Au cœur du chaos, le podcast de l'Institut de paléographie managériale qui explore les concepts fondamentaux nécessaires pour traverser, seul ou en équipe, les territoires incertains que représente toute transformation ou innovation. Depuis le début de cette série, nous avons parcouru de nombreux territoires. Depuis le territoire simple, en passant par le compliqué, le complexe et jusqu'à celui du chaos. Nous avons distingué objectifs et intentions, expérimenté les dynamiques de coopération, interrogé la notion d'autonomie. Et aujourd'hui, nous traversons un autre territoire, le cinquième, celui du désordre. Ce dernier est la révélation d'un territoire invisible, mais bien réel, que nous portons toutes et tous en nous. Egoland. Peut-être avez-vous déjà senti ce moment précis où, dans une réunion, dans une conversation, face à un défi imprévu, quelque chose se crispe en vous. Un besoin soudain de contrôle, une irritation quand on vous contredit, une envie de briller, une peur de ne plus être reconnu. Egoland, c'est cela, un espace intérieur où notre identité, ou plutôt notre représentation de nous-mêmes, cherche à se défendre. Dans cet épisode, nous allons prendre le temps de cartographier ce territoire, car il est souvent méconnu, mal compris, voire nié. Et pourtant, il influence fortement nos décisions, notre posture de leader, ainsi que nos dynamiques collectives. Nous allons d'abord définir ce qu'est Egoland, ce qui le déclenche et comment il se manifeste. Ensuite, nous verrons ensemble quels sont les pièges qu'il tend aux leaders, souvent bien malgré eux. Enfin, nous explorerons un point fondamental. Egoland n'est pas qu'un ennemi. Il peut être un précieux allié si nous savons en faire un territoire de conscience. Installez-vous confortablement, respirez, ouvrez votre esprit. Aujourd'hui, nous parlons de nous, de ce que l'incertitude révèle en nous, parfois malgré nous. Bienvenue à Egoland. Commençons par le commencement. Egoland n'est pas un lieu. C'est un état mental, émotionnel et relationnel. C'est un espace intérieur qui surgit lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude, à la perte de repères, à un changement qui nous échappe. Dans ces moments-là, notre besoin de sécurité devient plus fort que notre capacité d'ouverture. L'ego, qui d'ordinaire nous structure en toile de fond, prend alors toute la place. Dans Au cœur du chaos, on peut lire « L'ego est ce système de représentation qui donne à chacun le sentiment de continuité, d'identité, de cohérence personnelle. L'ego construit une réalité cohérente pour protéger l'individu de l'incertitude. » Il transforme la complexité en simplification, le doute en certitude et la diversité en confrontation. C'est exactement cela. L'ego agit comme un réducteur de complexité. Il cherche à rétablir un sentiment de contrôle, à réaffirmer une identité. Il remplace l'écoute par la certitude, la curiosité par la défense. La nuance par la généralisation. Ce territoire peut surgir à tout moment, dans un feedback que l'on reçoit mal, dans une réunion où l'on se sent menacé, dans une situation nouvelle où notre expertise ne suffit plus, ou encore dans un conflit où l'on veut à tout prix avoir raison. Et il ne touche pas que les individus. Egoland peut contaminer une équipe entière, une organisation, voire une culture managériale. Quand les systèmes valorisent, par exemple, la performance au détriment de l'apprentissage, ou la perfection au détriment de l'expérimentation, alors Egoland peut devenir collectif. Et lorsque Egoland contamine une équipe entière, le territoire collectif devient un champ de défense personnelle permanent. Cela crée un environnement où chacun agit non plus pour faire avancer l'intention collective, mais pour protéger son image, son rôle, sa légitimité. Voici quelques effets typiques, sans ordre d'importance. Par exemple, la coopération devient superficielle. Les membres de l'équipe évitent les désaccords profonds. Ils jouent la courtoisie de façade. On collabore pour ne pas perdre la face, pas pour créer de la valeur. En conséquence, il y a plus de consensus mou que de décisions courageuses. Parfois, l'expression est bridée. Chacun surveille ce qu'il dit pour ne pas froisser l'autre ou ne pas être perçu comme fragile ou incompétent. Le feedback authentique disparaît. En conséquence, l'équipe perd en capacité d'apprentissage et d'adaptation. Parfois encore, les conflits deviennent personnels. Un désaccord sur un projet devient un affront personnel. Chaque discussion est vécue comme une menace sur le statut. En conséquence, polarisation, jeu de pouvoir et blocage décisionnel en tout genre. On voit aussi parfois que l'isolement se renforce. Chacun se replie sur son périmètre. Les silos s'installent. L'énergie collective est détournée vers la préservation de soi plutôt que l'évolution de l'ensemble. Conséquence, le collectif devient un ensemble de monades en défense au lieu d'être un organisme vivant en transformation. Ce qu'on observe alors, 1. Une incapacité à nommer les vrais problèmes. 2. Une inflation de procédures pour masquer le manque de confiance. Et 3. Une fatigue émotionnelle, car chacun joue un rôle au lieu d'être pleinement là. Mais il y a une voie de sortie. Si un leader ou un membre ose reconnaître Egoland à voix haute, sans l'accuser, mais en le nommant, cela peut briser le cercle. Ce n'est pas l'ego qui est contagieux, c'est l'inconscience de l'ego. À l'inverse, la présence consciente, elle aussi, peut être virale. Car ce qui est troublant, c'est que l'ego ne crie pas son nom. Il avance masqué, il se cache derrière des phrases comme « je sais ce que je fais », « c'est pour le bien de l'équipe » ou « je veux juste que ce soit parfait ». Des phrases qui peuvent être sincères, mais qui peuvent aussi masquer un profond besoin d'être reconnu, validé, sécurisé. Pour caricaturer, nous pourrions dire que l'ego est comme un antivirus mal calibré. Il se déclenche à chaque alerte perçue, même lorsque celle-ci pourrait être une opportunité. Autrement dit, l'ego ne fait pas, ou très mal, la différence entre menace et nouveauté. Et dans un monde incertain, cela peut devenir un vrai problème. Et vous? À quel moment sentez-vous que votre ego prend le dessus? Qu'essaie-t-il de protéger? Votre statut? Votre expertise? Votre image? Ce questionnement n'est pas confortable, mais il est libérateur. Entrer dans Egoland, c'est humain. Mais s'y installer, c'est dangereux. Car l'ego, lorsqu'il est inquiet, tend à déformer la réalité. Il empêche d'écouter, de coopérer, d'apprendre. il fausse la relation aux autres. Il enferme dans une posture de surplomb. L'ego n'est pas dangereux en soi. C'est un mécanisme normal de l'identité. Mais lorsqu'il passe en mode défense, il peut devenir toxique, surtout en posture de leadership. L'ego devient problématique lorsqu'il passe de mécanisme de survie à stratégie dominante, orientant chaque interaction, chaque décision à travers le prisme de la défense du moi. Il peut encourager de la surréaction quand il prend une remarque neutre pour une attaque. Résultat, explosion, mutisme, justification excessive. On ne répond plus à la situation, mais à une blessure invisible. Il peut aussi générer de la rigidité lorsque tout changement est vécu comme une perte de contrôle. L'ego refuse de s'adapter. On l'entend dire « c'était mieux avant » ou encore « on a toujours fait comme ça ». Aussi, l'ego peut nous entraîner dans le piège de l'illusion. Il construit un récit qui nous place en victime ou en héros, mais jamais en posture d'apprenant. On entend dire « les gens ne comprennent rien » ou « je suis seul à porter la vision ». Et n'oublions pas, dans tout ça, l'illusion du contrôle. L'ego déteste l'incertitude. Il préfère un plan faux à une exploration ouverte. Il exige des indicateurs, des garanties, des résultats, même quand le contexte ne permet pas de les produire. Il rigidifie, il fige, il ralentit. Une phrase résume ce dernier piège. Ce que les leaders cherchent à contrôler devient précisément ce qu'ils empêchent d'émerger. La confiance, l'initiative, l'intelligence partagée. Ces pièges ne sont pas rares. Ils sont universels. Et c'est un paradoxe cruel. Plus le leader veut sécuriser, plus il crée de la peur. Cette spirale peut devenir toxique. Un manager témoignait un jour à propos de son leader. Je le cite. Il parlait de bienveillance en réunion, mais il te regardait avec une telle intensité que même ton inconscient signait une clause de silence. Voilà, tout est dit. Et vous, quand êtes-vous tombé dernièrement dans l'un de ces pièges ? Était-ce par besoin d'être utile? Ou par peur du jugement? Ou par fatigue, tout simplement? Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une démonstration de lucidité. Et maintenant, venons-en à ce que peu de discours managériaux osent dire. Ecoland peut être utile. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas un ennemi à abattre. C'est un signal, un indicateur, une alerte précieuse. C'est une boussole intérieure. L'ego, lorsqu'il est mis au service de la conscience, peut devenir un allié, un instrument de cohérence, de positionnement, de discernement dans le chaos. C'est souvent l'alerte qui montre que nous nous trompons de territoire. Par exemple, le problème que nous avons à résoudre est en plein territoire complexe et nous cherchons à le résoudre avec les approches et outils habituels de nos territoires simples ou compliqués. Parfois, Ecoland émerge au cours d'une discussion entre des personnes qui se situent dans des territoires différents alors qu'ils parlent de la même situation. L'un résonne comme pour un territoire chaotique, alors que l'autre résonne en expert, comme dans un territoire compliqué. Dans tous les cas, Ecoland est un indicateur précieux qui nous dit que le problème est ailleurs. Il n'est pas celui que nous cherchons à résoudre. Il est d'abord celui de faire l'état objectif de nos connaissances et de nos ignorances, afin de situer le problème et ses composantes dans les territoires appropriés. Entrer dans Ecoland, c'est souvent la manifestation d'un déséquilibre intérieur, d'un besoin non nourri, d'une peur enfouie, Cela révèle ce que l'on valorise, ce que l'on veut préserver. Cela nous parle de notre rapport à l'autorité, à l'expertise, à la légitimité. En fait, c'est dans la lucidité sur nos propres défenses que naît la possibilité de diriger autrement. Pas en devenant parfait, mais en devenant plus présent à soi et aux autres. Un leader qui reconnaît ses passages par Egoland devient plus humain, plus accessible, plus inspirant. Il apprend à dire « je ne sais pas ». Il accepte de changer d'avis. Il écoute, vraiment. Il sort du besoin d'avoir raison pour entrer dans le désir de comprendre. Il a aussi une formidable opportunité d'accompagner son équipe à découvrir les territoires incertains et à faire de l'ignorance acceptée une source d'apprentissage plutôt qu'un handicap. Finalement, sortir d'Egoland, c'est passer du contrôle à la présence. Ce n'est pas abandonner le cap, mais changer de posture intérieure. Alors, que retenir de notre exploration d'aujourd'hui ? D'abord, que Egoland existe, en chacun de nous, qu'il n'est ni honteux ni pathologique. Il est humain, il est révélateur. Ensuite, que les leaders qui veulent transformer doivent d'abord apprendre à observer leur propre fonctionnement, à reconnaître quand l'ego prend le dessus et à en faire une source d'apprentissage. Et enfin, que la puissance d'un leader ne réside pas dans sa maîtrise de lui-même, mais dans sa capacité à se transformer, à évoluer, à être présent à ce qui se joue en lui et autour de lui. Le véritable leadership, au cœur du chaos, ne consiste pas à dominer. Il consiste à éclairer, à écouter, à tenir l'espace, à autoriser les autres à se dépasser et à rester humain, même quand tout vacille. Et vous, quand avez-vous laissé votre ego décider à votre place? Et qu'est-ce que cela a produit autour de vous? Dans le prochain épisode, qui sera aussi le dernier, nous aborderons un sujet fondamental, celui du sens et de l'intention. Car face au chaos, face à l'imprévu, la stratégie ne suffit pas. Ce qui nous guide, c'est une intention claire, un cap de sens partagé. Mais ça, c'est une autre histoire.
Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et venez discuter avec nous sur la page Agile Freeride sur LinkedIn. Vos retours nourrissent notre réflexion collective. Pour rappel, le livre « Au cœur du chaos » par Olivier Lecointre est immédiatement disponible sur Amazon.fr. Merci de votre écoute et à très bientôt au cœur du chaos.